Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Landry, qui est en fait une médecine de famille, un médecin de famille, désolé, qui s'est sur-spécialisée en esthétique, mais aussi en hormonothérapie et en hormonothérapie aussi pour les trans, genre. Puis, une chose un petit spéciale par rapport à sa pratique, c'est qu'elle est allée au privé. Donc, elle est désaffiliée de la RAMQ, puis elle a sa propre clinique privée dans le Vieux-Port.
Ça a été intéressant justement de voir un portrait réaliste de ce que c'est de travailler au privé. C'est quelque chose auquel on n'est pas beaucoup exposé. Fait que c'est intéressant de voir ça, comment elle a fait cette transition-là vers le privé, puis comment elle trouve sa pratique, les côtés positifs comme les côtés négatifs. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant là, de voir sa pratique dans les trois aspects qu'on a nommés, là, d'hormonothérapie, de transition de genre, puis d'esthétique. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par un de ces trois choses. choses-là à intégrer dans leur pratique. Fait que, ouais,
bonne écoute. On voulait prendre un moment avant l'épisode pour remercier nos commanditaires Archer, qui est une firme de finances spécialisée pour les médecins et les étudiants en médecine. Ils sont tellement agréables avec nous, tellement agréables à travailler. On vous conseille fortement de les contacter.
Oui, c'est ça. C'est du monde facile d'approche. Les consultations avec eux, c'est gratuit. Fait que n'hésitez pas à envoyer un courriel. Le lien est en dessous des vidéos. Puis, c'est ça. Ils peuvent répondre à vraiment toutes vos questions que vous avez par rapport à vos finances personnelles, par rapport aux prêts et bourses du gouvernement, par rapport aux assurances que vous pouvez avoir. Des placements que vous pouvez faire pour essayer de maximiser vos finances. Okay, bref, peu importe quoi votre question, contactez-les et ils vont avoir les réponses pour vous. Merci Archer! Attention, on a une annonce spéciale à faire. Dans le fond, nous, on va prendre notre retraite de podcast là, après cette saison-ci. Donc, on est à la recherche de quelqu'un, de deux personnes qui seraient partants pour nous remplacer et continuer notre beau projet.
Oui, idéalement, on aimerait ça des étudiants en médecine, bien sûr, pour continuer un peu dans la même lignée. Des étudiants qui sont peut-être en première année ou en pré-med, qui vont pouvoir prendre le projet pour plusieurs années. Aussi, on vous suggère fortement, si ça vous tente d'appliquer entre amis, deux à deux, c'est toujours plus facile de faire des discussions comme ça quand on le fait entre amis. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-nous, envoyez-nous une petite description de pourquoi vous êtes intéressé. Puis,
ouais, c'est ça, on attend vos CV. Bien, merci beaucoup, Dr Landry, d'être ici, d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, on recule un peu au départ. Là. Est-ce que vous aviez toujours su que vous alliez aller vers la médecine?
Non, vraiment pas. En fait, moi, quand j'étais au secondaire, j'ai fait un stage à Flash pour être journaliste scientifique. Fait que je voulais faire de la vulgarisation. J'étais juste bonne à l'école, parce que j'aimais ça être juste bonne. Fait que c'était juste de la chance. Mais j'ai jamais vraiment voulu être médecin comme tel. À part le fait que j'étais bonne en sciences. Fait que, dans le fond, j'étais allée faire mon processus de sciences, là, comme toutes vous autres. Puis finalement, j'ai fait un bac en biomed. Après ça, j'étais comme, pour faire de la recherche. Puis là, ça me tentait pas de me retrouver avec toute cette étude-là pour y avoir pas grand job ou faire être représentant pharmaceutique. Fait que j'ai dit, je vais aller faire ma médecine. Puis ça a marché. Puis je voulais juste pas que ce soit trop long. Fait que j'ai fait de la médecine en me disant, je vais pouvoir tout faire avec ça. Puis je vais pouvoir me respécialiser. Puis c'est ce qui est arrivé, dans le fond. Là.
Puis vous êtes rentrée où en médecine?
Université de Montréal.
OK. Puis, c'est ça, pendant votre résidence, vous c'était déjà, votre étude, je veux dire, c'était déjà décidé au début, c'était la mettre femme, puis est-ce que ça l'a fléchi un peu, ça a changé?
Je sais pas. J'ai jamais pensé être. Tu sais, j'ai pas fait de la pré-med, fait que je sais pas, je me sentais comme un peu outsider, là. Tu sais, jamais comme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui allaient en spécialité qui étaient comme des pré-med, je sais pas pourquoi. On dirait que ceux qui ont un autre background sont comme juste. Plus chill, on dirait que c'est comme genre, on a déjà beaucoup, on est plus vieux, on a beaucoup, déjà beaucoup étudié, on veut juste comme faire ça comme métier, aider les autres, mais pas nécessairement se voir comme un chirurgien ou je sais pas. J'avais pas comme le rêve d'être une spécialiste, là, je me voyais pas. Mon ego était pas nourri par ça, mettons, quand j'étais jeune. Fait que je voulais juste être médecin.
Ça a toujours été clair.
Ben, depuis le début de ma médecine.
C'est nice.
Puis si vous avez fait votre résidence?
Le gardeur.
OK. Ça prend ça, j'entends ça. Hein?
C'est quoi les caractéristiques de ce site-là?
Ben, c'est ça, on n'avait pas beaucoup de... En fait, on n'avait pas beaucoup de résidents. C'était comme un petit centre. On était comme, genre, 6, je pense, résidents par niveau. Fait que c'était vraiment comme... C'était relativement nouveau aussi, là. Fait que c'était un petit peu à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est où, là. C'est comme pour l'Interbonne, plus ou moins, Lanzière. Fait que c'était bien, mais en même temps, ça, j'ai pas eu beaucoup de... Tu sais, c'était comme directement le patron qui était pendant ta résidence, comme la première personne qui t'appelait. Fait que c'était un petit peu plus intimidant, je trouve, parce que là, t'avais pas juste ton résident senior que tu pouvais juste... Fait que il y avait comme quand même des challenges avec ça, mais moi, de toute façon, la résidence, j'haïs ça, là. C'est la pire chose au monde. Ah ouais, c'est la pire... Ah, moi, j'ai tellement trouvé ça difficile. Je veux dire, la première fois que tu sors de l'externat, que genre, t'as le nez dans tes livres, puis là, t'arrives en résidence, puis là, c'est comme, OK, ben tu fais ton chiffre de nuit avec des gens qui vont coder, tu sais, puis t'es tout seul. Fait que c'est genre la pire expérience, comment traumatiser un être humain, là. Moi, j'haïs ça. T'es entre la supervision et tout, tu sais, c'est difficile quand même pour quelqu'un d'être tout le temps supervisé. Ouais. Fait que ça dépend de ta personnalité, mais moi, on dirait que j'étais comme tellement drillée que j'étais bonne, tu sais, à l'école, puis là, j'étais comme vraiment poche. Tu sais, comme vraiment, genre, tu sens que tu connais rien, tu sais, c'est à peine prescrire, puis là, c'est comme, il faut que tu prescrives des affaires dans des situations que tu n'as jamais vues de ta vie. Fait que j'ai vraiment trouvé ça tough. Ouais, mais la plupart des gens trouvent ça tough, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça tough.
J'ai l'impression qu'en médecine, ce qui est peut-être encore un peu plus difficile que d'autres spécialités, c'est qu'on change de patron comme à chaque demi-journée, presque. Mm-hmm. C'est peut-être moins le cas dans les petits sites, mais ça fait qu'il faut toujours s'adapter au style de patron.
Oui, j'ai trouvé ça terrible.
Comment vous avez...
pour pas vous décourager.
Mais non, je pense que c'est important d'en parler. Mm-hmm. C'est important de savoir dans quoi qu'on s'embarque. Mm-hmm. Puis, tu sais, comment vous avez copé à travers ça? C'est quoi vos mécanismes pour garder la tête haute puis continuer?
Moi, j'ai pas de garder la tête haute. C'est juste comme, tu genre, fake it until you make it, là. C'était vraiment ça, là. J'étais vraiment pas... j'étais bien anxieuse, là. Je pense que j'ai consulté, là. Tu sais, c'est stressant, là. Fait que c'est comme... Je pense que c'est le fait de te faire superviser. Tu sais que tu peux le faire, mais en même temps, c'est tellement comme... Je sais pas, c'est tellement complexe. T'sais, tu peux pas être bon quand tu commences, mais si tu vois vraiment que t'as de la misère à avouer que t'es pas bon, c'est ça qui est difficile, je pense. Fait que je sais pas, que je pense pas que j'ai coupé, là. Je pense que j'ai survécu.
Je comprends. Rester sur une tonne de bagage.
J'ai passé, puis j'étais correct.
Puis la transition à résident patron, c'était-tu correct? Parce que, me semble, souvent, on se fait dire que c'est ça qui est difficile quand soudainement, t'es laissé à toi-même.
Non, moi, ça a vraiment bien été. Mais ça, je suis rentrée dans une équipe aussi. En fait, une fois que j'étais plus supervisée, j'étais comme, tu sais, c'est quoi que t'as à faire? Mais c'est sûr qu'il y a des affaires qui sont plus challengeantes que d'autres, mais j'étais quand même, j'avais un mentor à la clinique où j'ai commencé quand même. Moi, j'ai vraiment aimé pendant ma résidence. J'ai fait un stage à la clinique A, qui était comme la clinique, dans le fond, qui était un peu santé sexuelle, mais avec la clinique actuelle dans le village. Okay. Fait qu'ils ont comme démarré cette clinique-là pour faire un peu plus hétéro, parce que la clinique actuelle est plus ARSA. Puis... Fait que dans le fond, c'était semi-privé. Fait que j'ai commencé là, puis il faisait beaucoup plus de femmes. Fait que moi, la santé de la femme, ça m'intéressait vraiment. Puis il y avait Dr. Steben, qui était vraiment quand même connu là, en maladie vulvaire. Il m'avait envoyé faire un stage à Paris pendant ma résidence. Fait que quand j'étais arrivée là-bas, fait que j'étais vraiment prête, comme... Il m'avait comme un peu drillée à être un peu... faire ça de la santé de la femme. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Fait que j'ai commencé à faire plus des vaginites chroniques, de la dermatologie vulvaire. Puis en même temps, vu que j'étais dans un centre DTSS, puis à mes AMP, à ce moment-là, c'était VIH. Fait que je suis devenue, à place de prendre prise en charge, dans le fond, j'ai pris AMP, VIH, hépatite. Fait que j'ai fait du VIH à la clinique actuelle pendant toutes mes années, jusqu'à temps que je me désaffilie. Je suis désaffiliée depuis un peu plus que 2 ans, je suis au privé. Fait que c'est ça qui m'a comme un peu... j'ai eu docteur Régent Thomas, qui était quand même un bon mentor en VIH, qui est quand même connu. Docteur Steben, qui était plus en santé de la femme. Puis on avait vraiment un beau milieu d'enseignement, là. C'était vraiment pour les médecins qui voulaient comme apprendre puis se spécialiser là-dedans dans la santé sexuelle, santé de la femme. Fait que j'ai vraiment, moi j'ai pas, quand je commençais à être patron, ça a vraiment bien été.
C'était
vraiment
votre emplacement plus.
C'était comme ma spécialité. Je pense que c'est la généralité aussi de la médecine familiale qui peut être épeurant parce que tu te rends compte qu'il y a plein d'affaires que tu veux pas faire. Tu sais, comme tu sais, les maladies chroniques là, puis les vieux, tu sais, j'étais comme non, c'est trop heavy pour moi. C'est vrai, pareil, c'est comme on dit, c'est trop la pharmacologie là.
Certains vont aimer ça, mais c'est faut savoir ce qu'on aime, ce qu'on aime pas là.
Ouais, fait que moi j'avais plus une clientèle jeune, puis là les TSS c'était dépistage, c'était plus du counseling, il y avait aussi santé de la femme. On dirait que dès que je suis capable de me voir dans mes patients, c'est comme plus facile parce que je relate plus, fait que je comprends plus les choses parce que les connexions se font mieux, tu sais. Fait que c'est vraiment comme moins abstrait, dans le fond.
Puis là, juste pour expliquer à ceux qui t'écoutent un peu, les AMP que vous avez dit, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de prendre de patients à votre charge. Vous pouvez faire seulement de la santé sexuelle, exclusivement en tant que médecin
VIH,
de famille.
C'était VIH, là. Oui, c'est VIH à ce moment-là. Fait que je devais avoir tant de patients. Mais là, avec toutes les restrictions qui sont arrivées par la suite, finalement, si j'avais moins que 500 patients, j'avais plein de pénalités. Fait que j'ai finalement fait de la prise en charge pareil.
OK.
Mais à la base, j'étais pas obligée d'en faire.
OK.
Mais là, c'est la vie.
qu'est-ce qui vous a poussé à vous désaffilier puis à quitter cette clinique-là, finalement?
Mais ça, moi, dans le fond, ma pratique, c'est... ben, en fait, je fais de l'hormonothérapie maintenant, plus de la médecine esthétique. Fait que depuis le début, j'avais commencé à faire de l'esthétique, donc c'est privé, on s'entend. Mm-hmm. Fait que j'ai toujours eu ce genre de pratique un peu... c'est pas à deux vitesses, là, parce que j'étais vraiment juste... je pratiquais, dans le fond, mon esthétique qui n'était pas des frais qui étaient couverts par la RAMQ. Fait que, dans le fond, je pense que c'est un peu... en fait, il y a plus un concours de circonstances. De un, je faisais beaucoup de santé de la femme. Quand je travaillais à la clinique actuelle, j'étais comme une des seules jeunes médecins qui sont arrivés là. Il y avait beaucoup de vieux médecins, je veux pas, qui avaient travaillé dans les débuts des années 80 en VIH. Mm-hmm. Donc, j'étais comme un peu une nouvelle génération. Je connaissais plus la femme. Il y avait moins de femmes à la clinique actuelle, mais il y avait beaucoup de trans. Fait que, dans le fond, c'est ça qui s'est passé. C'est que j'ai comme un peu développé cette expertise-là en médecine transgenre parce que j'étais bonne avec les hormones. Parce que j'aimais les hormones, surtout. Fait que, tu sais, avec les trans, c'est vraiment commun qu'on va doser, qu'on va faire des bilans, qu'on va, tu sais, savoir quelle hormone fait quoi, comment tu réponds. Fait que c'est quelque chose que, chez la femme, on fait pas assez, là. Je pense vraiment que si on comprenait bien comment doser les hormones par rapport au cycle, on comprendrait mieux comment la femme fonctionne. Puis encore maintenant, les gynécologues font pas de bilans hormonaux. Mais, tu sais, moi, c'est quelque chose que je fais depuis 12 ans, là, faire des bilans hormonaux. Fait que c'était comme facile d'intégrer ça après ça dans dans la santé de la femme un peu plus. Fait que, bref, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, c'est vraiment un cours de circonstances. Il y a eu, tu sais, l'automéno, la saga des hormones bioidentiques. Mais, en fait, je me suis désaffiliée comme quelques mois avant. Fait que je pense que c'est comme l'univers qui avait besoin d'un médecin qui faisait de l'hormonothérapie, là. Parce que je m'étais dit, à un moment donné, tu sais, j'ai juste plus assez de temps pour, comme, voir les patients. C'est juste ça, là. Dans le fond, c'est que, tu sais, j'avais comme plus que 500 patients de prise en charge. C'était pas ma passion, la médecine familiale. Je voulais vraiment, comme, santé de la femme hormono puis esthétique. Fait que je me suis dit, genre, ça me permet d'avoir plus de temps, finalement. Je n'étais pas obligée de faire du débit. Puis je trouvais pas que j'étais la meilleure médecin quand je faisais du débit, justement, parce que c'est toujours comme ça. Les médecins sans rendez-vous, c'est comme un problème. Tu sais, un problème, puis c'est comme, tu le vois, puis c'est fini. Puis oui, quand il y a d'autres questions, tu es comme en train de faire de l'anxiété parce que tu regardes ta montre, là. Fait que c'est comme, ouais, c'est comme plate.
Il y a une pression de temps puis de volume à voir.
Tu vois vraiment pas, tu donnes vraiment pas le meilleur de toi-même. En tout cas, moi, personnellement, quand j'étais sous le stress du temps, là, j'étais comme... pas un bon médecin, je trouvais, comparativement à ce que je fais maintenant. Tu sais, ben, je prends une heure, mais c'est sûr que les patients payent, mais tu sais, l'expertise que tu leur amènes, puis le temps que tu leur consacres, ben, ça vaut son pesant d'or. C'est ça.
Puis, c'est comment faire, tu sais, une pratique qui jongle un peu? Vous avez plusieurs aspects, vous dites, donc les soins esthétiques, puis la nutrition, est-ce que vous faites tout ça dans le même... dans le même building, est-ce que c'est à la même place? C'est comme, comment ça commence quand vous désaffiliez? Est-ce que vous partez votre propre bureau?
Bien, ça, moi, c'est un peu particulier, là, parce que dans le fond, c'est une clinique qui est un genre de GMF, mais j'ai toujours fait de l'esthétique dans ce GMF-là, qui était comme à part, tu sais, du GMF, okay. Faisant les frais de bureau et tout, là, c'est comme différent. Moi, j'avais comme ma propre compagnie dans le GMF, plus ou moins. Puis comme, quand j'ai parti mon brand, ben là, c'était comme vraiment les gens... J'avais déjà une clientèle de trans, j'avais déjà comme, tu sais, des gens qui me connaissaient. Fait que j'ai juste parti... En fait, je suis devenue comme locataire dans la clinique où j'étais.
Okay.
Fait que c'est comme ma compagnie à travers tout ça. Fait que, tu sais, c'est un peu différent le modèle. Mais là, tu sais, dernièrement, c'est vraiment beaucoup d'hormonothérapie que je fais. Mais je fais des trans entre... Tu sais, je priorise, en fait, les personnes trans, les femmes en hormonaux. Ben malheureusement, j'ai 2500 personnes sur ma liste d'attente. Fait que va jusqu'à, genre, dans un an. Prochain rendez-vous. Fait que, c'est pour ça que c'était difficile de venir ici.
Ouais, trouver un temps et tout.
Ouais. Bon, on est vraiment contents de vous soyez ici.
Ouais, c'est ça. Fait que, puis je fais de l'esthétique entre. Puis aussi, je suis formateur, en fait, je suis formatrice pour le Collège des médecins, pour les médecins qui veulent devenir en esthétique, qui veulent faire de la médecine esthétique. Mmh. Fait qu'une fois par mois, je forme un nouveau médecin. Fait que je beaucoup souvent, comme ces quatre journées-là, ces quatre journées, la formation, deux journées de shadowing, une d'injection, puis une de follow-up. Fait que je fais souvent ça, ces quatre journées-là par mois, plus je mets du botox un peu partout quand je peux les voir, là, parce que, tu sais, malheureusement, c'est comme ça aux trois mois qu'il faut qu'ils fassent leurs injections. Fait que si j'ai de la place dans un an, ben
ma clinique
esthétique va pas marcher. Fait que c'est comme tout ça que je vois, mais j'ai différentes comme compagnies pour hormono-esthétique.
OK. Puis est-ce qu'il y a une partie des frais qui sont remboursés
pour la RAMQ? Non, en général.
Fait que esthétique, non. Puis est-ce que pour l'hormonothérapie ou les trans... Il y en a un petit peu ou même pas?
Ben c'est ça. Si je t'ai resté affilié, parce que tu peux pas faire que deux vitesses, fait que ou bien tu charges ou tu es désaffilié.
Je comprends.
Tu n'as comme pas le choix. Fait que avant, quand je faisais du trans, ben ça, c'est que, à un moment donné, c'est que tu vas voir, là, pour des façons de charger, tu peux faire des interventions cliniques, tu peux faire des examens complets, tu vas apprendre ça vraiment plus tard, là, mais... T'sais, moi, c'est comme, je faisais toujours des interventions cliniques parce que je passais beaucoup de temps. Ça, c'est comme un 30 minutes que la RAMQ te paye un certain montant, mais tu sais, ça devenait, c'était pas assez payant de un, puis aussi, ben tu sais, ça me permettait pas de voir assez de monde. Fait que c'était pour moi, c'était pas... Avec l'hormonothérapie, comme je prends beaucoup de temps, c'est ça, c'était plus vraiment concordant avec la médecine.
Fait que les patients qui viennent vous voir, il faut qu'ils payent tout de leur poche. Ils peuvent pas avoir une façon de se rembourser. OK.
Puis, qu'est-ce qui est la plus grande demande dans vos trois comme piliers? Là? Les gens qui sont sur la liste d'attente, y a-t-il comme quelque chose qui
Bien, c'est sûr que c'est l'hormonothérapie. En fait, l'hormonothérapie en général, parce que c'est la plus grande demande, parce que c'est vraiment une science. Tu sais, l'esthétique, on s'entend. Moi, je forme un nouveau médecin par mois, puis on est comme 20 médecins formés. Fait qu'il y en a de l'œuf, là, d'esthétique. Ah ouais, hein? Ouais, tu veux te faire du Botox, tu fais Google Botox, puis tu vas en trouver. Tu sais, il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est pas, je peux pas dire que c'est ma passion, tu sais, oui, j'aime ça, puis je continue à me former, puis à former des gens pour quand même rester on top, mais j'ai trouvé une façon vraiment plus valorisante d'aider les gens, puis de faire vraiment une grosse différence, en voulant dire, les femmes viennent me voir, tu sais, c'est comme, ça fait 10 ans, ou il y a fait tellement longtemps qu'ils ont des symptômes qui sont pas reconnus, ils se font prescrire la pilule contraceptive, des antidépresseurs, ils sont comme en burn-out, je donne des hormones, puis tout s'en va, tu sais, puis je suis comme, OK, ben tu sais, finalement, c'était la préménopause, tu sais.
Ouais.
Fait qu'on dit tout le temps, OK, c'est pas la fontaine de jouvence, l'hormonothérapie, là, on va pas régler tous les maux, parce qu'après l'automéno, tout le monde était comme un peu genre, ben là, les hormones, c'est pas si... Mais, tu sais, moi, j'en ai des cas de fibromyalgie non traitée depuis des années qui ont mal partout, puis je leur donne des hormones, puis genre, la fibromyalgie disparaît parce que tout d'un coup, ils ont plus mal nulle part. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Pour moi, c'est là que je change vraiment des vies, là, tous les jours, parce que c'est comme quand ils viennent me voir, c'est comme j'essaie d'avoir des rendez-vous avec tout le monde, puis il n'y a personne qui trouve la solution, puis ça a pris un an avant que je vous vois, tu sais, fait que, puis j'y vois avant qu'ils se séparent, puis que leurs enfants, tu sais, fait qu'il y a vraiment des grosses conséquences, là, une femme dans la quarantaine puis la cinquantaine, c'est là qu'on devrait, comme, vivre, moi, je vais avoir 40 ans, là, quand même, là, fait que c'est là qu'on devrait vivre, comme, foulement, là, je veux dire, t'as quand même, t'es accompli, puis c'est là que tu commences à dégringoler, ça fait aucun sens, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est ça que...
C'est drôle parce qu'on l'avait écouté une partie ensemble là, de l'automéno, là, du documentaire. Puis on se disait, c'est fou comme on n'apprend pas vraiment ça. Là, on a tellement appris. Puis tu sais, comme bien de la population, on a appris en écoutant ça. Mais ça a dû justement faire tellement un pic de demande après ça. Hein.
Ouais, c'est fou. C'est fou pour toute la... C'est sûr que nous, on a aussi, tu sais, je pense que j'ai buildé ma réputation puis les réseaux sociaux et tout, là, mais tu sais, quand même, juste d'avoir accès avec un gynéco, là, même sans bilan hormonaux, c'est pas dramatique, là. Sauf que, tu sais, comme on a encore tellement des mauvaises conceptions sur les hormones, les gens ont encore peur, puis tu sais, on le sait, là, 21 ans après l'étude White, tu sais, que les hormones ne donnent pas le cancer du sein, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme des mauvaises informations qui ont été diffusées puis qui n'ont pas été démenties avec les années. C'est comme un peu misogyne de dire que nos hormones à nous, féminines, nous donnent le cancer, tu sais, ou nous donnent des problèmes, tu sais. C'est comme, c'est protecteur toute notre vie, nos hormones sont nécessaires pour tous nos systèmes, tu sais. Quand on les perd, bien, c'est là que ça crée de l'inflammation puis toutes les problématiques de maladies chroniques. Fait que, tu sais, les hormones, l'estrogène, là, diminue le risque de mortalité de toute cause de 30 % chez la femme. Si tu commences, mettons, rapidement après la ménopause, genre à 50 ans, puis augmente ton life expectancy, là, comme de 3 ans.
Ah, c'est fou.
On n'en parle pas, on dit encore maintenant que c'est dangereux puis qu'on n'aurait pas donné ça en prévention, mais avant l'étude Y en 2001, 60 % 70 % des femmes étaient sous hormonothérapie, puis là, c'est tombé à 5 % après l'étude Y. Fait qu'on le savait que c'était bénéfique, là, tu sais. Fait que c'est juste que... T'sais, on est vraiment... Il y a beaucoup de podcasts américains qui vont dire comme les boomers, the boomers are pissed, en voulant dire comme c'est toute une génération manquée, là, tous nos parents. C'est vrai, on va dire comme il y a 20 ans où est-ce que eux autres, ils vont juste mourir plus jeunes que les autres. Puis on espère que ça va changer avec le temps, mais tu sais...
Mais est-ce que vous envoyez des complications, tu sais, des hormones dans votre pratique? Hein, quand vous en parlez?
Ben, tu sais, mais... Pas vraiment, je te dirais, de manière générale. T'sais, complications, mettons, on pourrait aller en détail, mais t'sais, de manière générale, quand tu leur donnes des hormones, quand c'est bien prescrit, en temps normal, c'est sécuritaire. T'sais, c'est sûr que si tu as trop de un passé, en préménopause, c'est un peu plus challengeant parce que ça peut être, mettons, OK, là, j'ai trop d'estrogène, je suis plus fébrile. C'est plus comme des effets secondaires que des vraies complications parce que théoriquement, l'estradiol transdermique, il n'y a aucun risque de caillot augmenté. Avec ça, c'est vraiment sécuritaire. Même les gens qui ont des maladies thromboemboliques comme le facteur 5 de Leiden, on sait que c'est sécuritaire de le donner.
Ah, ouais, okay.
Mais on n'en parle pas. Parce qu'on dit, oh, les estrogènes, c'est les estrogènes.
Ouais,
comme c'est si c'est la pilule contraceptive, c'est la même affaire que de l'estradiol transdermique. Fait que c'est vraiment plate. Mais sinon, ça n'empêche pas qu'il y a une femme sur 8 qui va avoir un cancer du sein dans sa vie, là, mais c'est pas ses hormones qui vont lui donner. Là. Puis ça, on le sait. Fait que... je dirais pas, tu sais, les femmes trans, c'est un petit peu particulier parce qu'on a des niveaux vraiment another level. On sait que, tu sais, jusqu'à 3000, mettons 3000 ou 4000 niveaux d'estradiol, c'est quand même sécuritaire, mais il y a des femmes, tu sais, qui vont, tu sais, c'est des fois du off-label, les femmes vont s'autodoser, tu sais, il y a comme un peu des populations particulières, là.
Prennent ça sur le black market,
ou... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ou des pilules contraceptives, mais tu sais, comme en grosse dose pour essayer d'avoir comme... Fait que, tu sais, c'est là que ça peut devenir dangereux, mais quand c'est bien suivi, puis, tu sais, dans certains ranges, ça, c'est sécuritaire,
Puis comment vous délai avec ça un peu, tu sais, je pensais qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent avec des informations qui ont pris un peu à droite puis à gauche, puis vous devez souvent faire de la désinformation, j'ai l'impression.
Oui. Ben moi, en fait, on a comme on est chanceux, là, au Québec, on a la docteure Sylvie Demers, qui est comme une chercheure biologiste. Elle a vraiment quand même beaucoup, elle a écrit des super bons livres avec beaucoup de littérature scientifique, tu sais, qui elle s'est faite quand même donner beaucoup d'approbation ouais, au niveau public, mais quand même aussi le Collège des médecins, tu sais, on le voit là, que cette femme-là, là, c'est evidence-based, là, ce qu'elle dit, tu sais, puis c'est malgré tout. Puis elle a écrit un autre livre qui est plus sur hormones et cholestérol. Fait que nous, on a quand même ce genre de... ben cette mentor-là qui est à tous les médecins qui font de l'hormonothérapie, qui est quand même qui donne la crédibilité. Moi, je vais souvent référer à son livre ou... de plus en plus de podcasts aussi, là, tu sais, j'ai beaucoup de... J'ai vraiment comme une feuille que je donne à mes patientes. Tu peux aller lire ça, tu peux aller voir ça, tu peux... Tu sais, fais-toi ta propre idée, là, parce que je comprends qu'il y a beaucoup de mésinformations, mais plus tu t'en apprends, puis plus tu fais des conférences, puis tu vas voir partout dans le monde, tu te rends compte que tu sais pas pourquoi c'est pas plus connu, puis pas plus donné, tu sais, pourquoi il y a eu autant d'impact de l'étude web, puis que c'est pas été démenti par la suite, ou on en parle juste pas. Fait que c'est vraiment... en fait, plus t'en apprends sur les hormones, plus c'est fâchant aussi, là, de voir que, tu sais, les gens qui connaissent pas ça vont souvent dire leur opinion, tu sais, comme le médecin, il va juste dire, « Ah, oh, ben là, ta mère a eu le cancer, moi, je te donnerai jamais d'hormones. » Puis je suis comme... Tu sais, c'est même pas des recommandations premier degré, puis... Tu sais, c'est tellement comme... C'est juste comme la peur. Puis j'entends souvent les patients me dire, « Ben, mon médecin, il m'a dit, moi, je perdrai pas ma licence pour toi, tu sais. » C'est tellement pas justifié de dire ça en voulant dire. Ils ont juste peur eux-mêmes parce qu'ils connaissent pas les hormones. Ouais. Fait qu'ils vont juste s'abstenir parce qu'ils ont juste peur de se faire poursuivre. Mais c'est pas ça de la bonne médecine. Là. Faut que tu connaisses. T'sais, à la limite, tu dis au patient, écoute, moi, je connais pas ça, je vais te référer.
Ouais, référer
c'est
à quelqu'un.
Mais dis pas, genre, essaie pas de créer la peur, le régime de la peur. Là, c'est vraiment comme un peu ridicule.
Mais la santé de la femme, tu sais, quand on s'informe, souvent, ça devient fâchant, là, tu sais, historiquement, puis ce qui a été fait et tout. Je pense que c'est le cas pour pas mal d'enfants.
Juste en général, on réalise à quel point c'est plus méconnu. Il y a encore beaucoup de zones qu'on comprend pas trop, tu sais.
Exact.
Ouais, les femmes sont souvent exclues des études, tu sais, des grandes études, là, comme les études par rapport à, aux statines, entre autres, là, tu sais, qui n'ont jamais été étudiées chez la femme, là. Les cardiologues, ils disent, ben non, les statines n'ont jamais été étudiées chez la femme parce qu'il y a le risque de grossesse, puis... Ça, c'est tout un autre gros sujet. C'est comme ça. Vraiment... fait que, tu sais, c'est plate. Ouais. On est vraiment comme left apart, là.
Il y a encore du chemin à faire.
Ouais.
Puis pour niveau transition de genre, ça, vous l'aviez appris, comme vous disiez, dans vos premières années de pratique.
Oui. Il y a des grands protocoles, comme le protocole de Toronto, Vancouver, tu sais, qui nous ont comme un peu pavé la voie, là. Moi, j'avais aussi une mentor qui faisait beaucoup d'hormonaux, fait que... avec les trans, fait que ça m'a aidé à développer cette expertise-là, mais c'est vraiment avec le temps que tu « Ah, OK, ouais, là, sont plus confortables à tel niveau d'estradiol avec le temps, puis ah, là, je peux leur acheter de la progestérone, mettons, les femmes trans. » C'est quand même un peu funky, là. Il y a pas de... Il y a des guidelines, mais c'est comme... Moi, j'ai des guidelines que j'ai développées, tu sais, avancées pour vraiment optimiser la féminisation ou la masculinisation. Fait que ça, c'est super intéressant aussi.
Puis comment ça marche, en fait? Est-ce que... Parfois, il faut juste qu'ils prennent un rendez-vous avec vous à la boutique, puis on commence. Est-ce qu'il faut qu'ils soient vus par un psychiatre, un psychologue? Est-ce qu'il y a une équipe avec vous? C'est vous qui faites vraiment tous les soins globaux.
Oui, ben je te dirais que tu sais, il y a des médecins qui seraient moins à l'aise, peut-être, là, puis qui seraient comme, ah, mais tu sais, en temps normal, je veux dire, la dysphorie de genre, c'est assez facile à traiter. Il ne faut pas oublier que c'est une pathologie que souvent, en fait, qui n'est pas une pathologie, c'est une condition plutôt qui est là depuis longtemps. Puis il y a beaucoup d'impact. T'sais, moi, je vois beaucoup de gens, mettons, qui arrivent avec plein de troubles psychiatriques, là, t'sais, genre mutilation dans l'enfance. T'sais, comme... Fait que c'est souvent quelque chose qu'ils savaient depuis longtemps, qui était quelque chose qui allait pas bien. Puis si on retarde le traitement en demandant des évaluations qui finissent plus de finir, t'sais, c'est sûr que comme un médecin qui commence, je peux comprendre qu'il était un petit peu insécure. En même temps, le risque de regret là, est quand même extrêmement faible.
Ouais.
Faut juste qu'il soit conscient que si jamais, à un moment donné, il décide d'arrêter l'hormono, ben, mettons, si tu as commencé la test, ton clitoris va rester plus gros, puis ta voix va peut-être rester plus rauque. Il y a des choses qui vont être irréversibles. C'est pour ça qu'avant de faire une chirurgie de réassignation comme une vaginoplastie, ou, il faut avoir une lettre d'un psycho, d'un sexo qui est WPAT, là, qui a comme suivi les lignes puis tout pour dire, OK, j'atteste que la personne a une dysphorie de genre. Mais pour avoir des hormones, c'est pas dangereux, à part qu'il y a peut-être des affaires un petit peu moins réversibles. Fait que moi, je suis toujours plus aussi proactive parce que je vois tellement les conséquences de la peur de prescrire qui va juste retarder puis qui va créer d'autres stigmas chez la personne puis que ça va... Tu sais, moi, je vois des gens qui ont des listes de pathologies psychiatriques, je leur donne des hormones, encore là, c'est fini, il n'y en a plus de pathologies psychiatriques, tu sais.
C'est ça. Puis les gens qui se rendent au privé, j'imagine que c'est parce qu'ils ont attendu, ça fait longtemps qu'ils attendent. Puis...
Avant que je switch, dans le fond, j'avais 18 mois d'attente sur ma liste d'attente en hormonaux pour les trans à la clinique actuelle.
18 mois, wow.
Parce que c'est ça, parce que j'avais tout mon lot de patients, tu sais, en médecine familiale, j'avais un peu d'esthétique, fait que, tu sais, mais c'était vraiment mes 600 patients que j'avais en médecine familiale qui faisaient que je ne peux pas prendre des nouveaux patients en hormonaux pour les trans. Là, maintenant, tu sais, même si ça prend quand même du temps de me voir pour les madames en pré-ménopause, surménopause, les personnes trans qui me rejoignent, je les priorise toujours dans les 6 à 8 semaines, ils vont me voir. C'est bon. Parce que je sais que c'est différent. Là, en même temps, tout le monde souffle, là, mais c'est comme un peu la bataille que j'ai décidé de mener avec cette communauté-là.
C'est ça. Puis un médecin de famille qui veut faire ça... Là. Comment ils peuvent s'éduquer là-dedans?
Oui, c'est pas vrai, mais c'est sûr qu'on est quelques médecins. Par exemple, il y a des associations que tu peux aller voir, comme l'ASTEC ou c'est-tu comme Trans-Québec, des choses comme ça que tu peux aller voir, puis on a une liste de médecins. Là. On est comme plusieurs à Montréal, comme dans plusieurs cliniques, là, tu sais. Mais il n'y a pas de formation officielle. Okay. Puis je me fais souvent quand même demander de plus en plus, comme pour la monothérapie. J'essaie de former un petit peu les gens, mais c'est sûr qu'on manque de temps pour voir nos patients. Fait qu'on est comme un peu... éventuellement, dépendant de la demande, je pourrais en faire un peu de shadowing, là, définitivement. Mais sinon, ça reste que, tu sais, les gens peuvent commencer avec les protocoles standards. Puis c'est déjà quand même bon, là, de pouvoir avoir une base... d'être juste comme ouvert à prescrire. Après ça, c'est pas grave si t'es pas genre l'expert qui sait exactement comment ajuster toutes les affaires. Là.
Ouais, c'est ça.
Mais ça s'apprend sur le tas, là. Tu sais, c'est ça qui se passe, là.
Ouais. Je trouve que ça serait mettons que ça existait un 3 mois, tu sais, de hormonothérapie puis hormones pour transition de genre. Ça pognerait vraiment.
Ouais.
Il y a plein de gens intéressés à faire ça. C'est cool.
On en perd la peine. Tu sais, moi, je suis aussi... je sais pas, vous avez des APP, vous autres, à McGill, c'est pas des APP.
Non.
Qui est à l'Université de Montréal, on a ça. Fait que je suis comme tuteur d'apprentissage en APP, en endocrinologie. Puis, tu sais, je le sais, on en parle à peine. On en parle, même de l'hormonothérapie, je pense qu'il y a une phrase dans tout le cahier. Là, c'est vraiment pas beaucoup. Tu sais, c'est genre les hormones, OK. Puis la transition, je pense qu'il y a quelque chose aussi. Mais je pense qu'elle disait que c'était plus en préclinique. Parce que j'ai demandé à la personne qui était en charge d'endocrinologie. Puis elle a dit que c'était comme on lit en. Il va y avoir comme un... C'est en préclinique? Non, c'est en externa. Qu'il allait avoir un moment donné une histoire de... Tu sais, genre, c'est en voulant dire, comme...
C'est rien.
Si c'est une heure de tout le cursus, c'est bon, là. Tu sais, fait que c'est ça, en effet. C'est vraiment pas exposé.
Ouais. Nous, je pense qu'on apprend plus justement les risques que d'autres choses.
Ouais, mais je m'en souviens que c'était flou. Je me souviens que dans les cours, à la fin du cours, j'ai comme... Je suis pas sûre si c'est bon ou non. Genre,
ouais.
Tu sais, ils donnaient tous les positifs, tous les... Là, t'es juste comme,
Ouais, c'est sûr de se faire une
C'est poche.
Puis là, bon, je pense que je veux pas vous mettre en the spot, mais genre, en même temps, je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler un peu. Là, dans les médias, en ce moment, ça brasse quand même par rapport aux personnes trans, puis là, à des gens qui sont vraiment... qui ont comme la peur qu'il y ait des enfants qui se fassent faire des chirurgies, puis qui se fassent transitionner, endoctriner vers la transition. fait que moi, je suis curieuse d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus.
Ben écoute, c'est sûr que nous, quand tu donnes des soins à des gens, t'as pas la même vision que, tu sais, comme les médias puis le sensationnalisme.
Ouais,
fait que c'est sûr que moi, au day-to-day, je vois des jeunes enfants qui souffrent, tu sais, puis des parents qui comprennent pas. Fait que moi, c'est plus d'essayer de faire cheminer tout le monde puis vers l'acceptation, là. Parce que c'est vraiment ça, là, à the end, tu sais, oui, c'est sûr qu'on entend juste parler de, genre, les toilettes puis, genre, les sports, là.
Tu
sais, moi, ça me frustre parce que je trouve qu'on dérive vraiment la question, là. On fait juste mettre les gros débats, là, comme n'importe quoi, tu sais, qui c'est comme... Mais tu sais, on parle pas de ces enfants-là, là, qui sont vraiment comme souffrants, là, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, nous, on est là pour donner des soins aux gens, là. Fait que, tu sais, moi, ça change rien dans ma... Ça fait juste me fâcher, là, comme les documentaires « What is a woman? » Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça.
Non,
je sais pas. c'est genre un gars des États-Unis là, qui fait juste comme poser la question à tout le monde, là, puis c'est quoi une femme, on va leur dire, t'es pas capable de dire c'est quoi une femme, parce que là, si tu dis qu'il y a un vagin, mais, fait, en tout cas, vous devriez regarder ça, ce documentaire-là, c'est tellement frustrant, c'est comme de dire, il dit un petit peu, tu sais, un chat, c'est un chat, pourquoi une femme, c'est pas une femme, tu sais, genre, en voulant dire, là, c'est comme si une femme, puis là, les gens sont, ils ont de la misère à l'expliquer, parce que c'est, ben, une femme, c'est comment que tu te sens à l'intérieur, c'est pas nécessairement la façon dont t'es née, puis c'est de ridiculiser vraiment les gens qui sont pas capables de dire qu'est-ce qui est, en tout cas, c'est vraiment frustrant, c'est juste comme, ça fait juste une autre caractéristique de ce débat-là qui fait que, tu sais, ça va vraiment comme être super polarisé, quand dans le fond, à la base, c'est juste, l'acceptation, puis... Puis surtout pour les enfants, tu sais, comme ça devrait tellement être genre juste, tu sais, c'est individualisé à la famille puis à l'enfant, là, tu peux pas juste comme.
Ça amène c'est beaucoup ça. De souffrance, tu sais, pour ces jeunes-là, j'imagine, de voir des débats comme ça, puis justement de se sentir invalidé dans qui ils sont, dans ce qu'ils ressentent. Ouais, c'est bien dommage. Ouais.
Vraiment.
Hey, non.
Ouais. Bref. Puis là, si on va dans le côté esthétique, je suis curieuse, c'est ça comment vous avez commencé à en faire?
Ben écoute, moi, quand j'ai commencé, j'ai fini après ma résidence en 2012. Fait que, tu sais, j'avais déjà... En fait, c'était vraiment le... Je dis souvent, c'était vraiment rock and roll dans ce temps-là. Tu sais, c'est juste depuis 2016 qu'il y a eu un guide de pratique du Collège des médecins pour vraiment comme orienter, Fait que les gens qui ont commencé, ben tu sais, on se cachera pas, là, c'était les compagnies pharmaceutiques qui nous formaient, puis c'est ceux qui voulaient te vendre leurs produits. OK, il y a un médecin qui fait ça, on va t'amener. Il y avait des formations par des médecins, mais c'était beaucoup les compagnies. Puis maintenant, ben c'est plus structuré. Fait que, ben moi, je m'étais fait former, j'allais à Paris avec Filorga, qui était une compagnie qui devait être approuvée Santé Canada, qui l'a jamais été, tu sais, c'est comme, c'était un peu genre n'importe quoi. Fait que c'est avec le temps, là, tu sais, dans le fond, en 2012-2016, juste comme pratiquer, là, je pense que la clinique avec laquelle je travaillais vendait des agents de comblement comme sur Groupon, là, fait que je faisais du débit, tu sais, comme un peu, puis c'était pas tant, oui, tu pouvais faire des formations, tu savais qu'il y a des complications, mais c'était pas autant structuré que dans le temps, là, c'était un peu, le, c'était rock and roll. Fait que t'apprends aussi sur le tas, là, parce que justement, quand t'as pas de formation qui est structurée, même si tu vas te former à gauche, à droite, t'as pas de... tu vas pas nécessairement avoir la même formation que quelqu'un d'autre. Moi, j'avais jamais vu des granulons. Ben, tu sais, j'ai le temps. Tu vas en avoir parce que tu vas en avoir dans tes patients parce que c'est des produits. Tu sais, c'est comme... C'était vraiment random. Mais bref, depuis 2016, c'est vraiment mieux structuré. Puis maintenant, c'est vraiment les médecins qui doivent former tout ça.
Il faut avoir un droit de pratique pour faire de l'esthétique?
Oui, c'est ça. Il faut vraiment que... En fait, n'importe quel médecin, de genre guillemets, là, parce que, tu sais... Non, n'importe quel médecin, en fait, n'importe quelle spécialité peuvent aller faire sa formation du Collège des médecins pour aller devenir médecin esthétique. Il y a juste comme les ophtalmos, ben les plasticiens, les chirurgiens, les ophtalmos, les dermatos qui, d'emblée, dans le fond, peuvent en faire pour avoir une formation. Ouais.
C'est étonnant.
Ouais. Puis ORL aussi. ORL, ophtalmo.
Ça fait qu'ils n'ont pas besoin de faire la formation supplémentaire. Ils peuvent c'est juste tout aller.
Exactement.
Je comprends. Puis c'est quoi exactement, tu sais, on connaît tout le Botox, Gilles, mais y a-t-il d'autres choses ou est-ce que c'est vraiment juste du Botox?
Ben en fait, dans la formation de base, c'est agent de comblement toxine botulique. Donc, agent de comblement étant les fillers, donc tout ce qui est volumisant. Toxine botulique étant le Botox. Donc, dans le fond, tout ce qui est relaxant musculaire. Donc, ça, c'est la formation de base. Après ça, moi, je fais aussi la formation PRP, plasma riche en plaquettes. Ça peut être injecté pour l'alopécie, pour le Vampire Facial. C'est comme un peu... c'est un peu pour restimuler le collagène, mais aussi surtout les vaisseaux puis les nerfs. C'est un peu du rejuvenation, un peu. Puis, il y a aussi d'autres agents, mais ça fait pas nécessairement partie de la formation, comme le Sculptra, comme des biostimulateurs de collagène. Mais la base, c'est vraiment fillers, Botox.
OK, ouais.
Puis, est-ce qu'il y a encore de la place, justement, pour des médecins qui veulent faire ça? Ou le marché, comment
ça se passe? Ben, je pense qu'il y en a là, pour des bons médecins qui veulent. C'est sûr que le collège, quand ils ont commencé à faire cette formation-là, ils ont dit ben là, les médecins qui se lancent là-dedans, probablement ça va être cher, la formation, parce qu'ils essaient de mettre des limites, parce qu'ils veulent pas que les gens fassent ça, tu sais, on the side. Théoriquement, si tu deviens un médecin esthétique, ils veulent que dans les 2 ans, 40 % de ta pratique soit consacrée à l'esthétique. C'est ce qu'ils disent, mais c'est pas vérifié. Tu sais, à ce que je sache, en tout cas pas aux dernières nouvelles, je sais pas si ça va devenir plus strict.
C'est au privé. Mais ils mettent quand même des barèmes sur la pratique.
C'est juste parce qu'ils veulent pas que les médecins fassent ça on the side pour qu'ils deviennent experts. Puis, tu sais, parce qu'il y a quand même des complications.
Une bonne qualité, genre.
Ouais, c'est pour ça. Okay. Puis c'est correct, tu sais, c'est correct d'une certaine façon, là, parce que c'est vrai que c'est tellement accessible. Là, tu fais la formation, puis tout le monde peut commencer à faire ça. Puis, il y a des infirmières qui font ça. Puis,
Ah ouais, OK.
Oui, oui, des infirmières avec des ordonnances individuelles que le médecin doit voir avant. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça, tous les médecins, toutes les infirmières qui font ça, il y a vraiment beaucoup de monde qui font ça. Là. Fait que c'est sûr qu'en effet, il faut que tu sois vraiment bon, puis tu crées ton brand là, pour vraiment te différencier de la masse.
Mm-hmm.
Mais, ouais, c'est ça.
OK. Puis, c'est quand même surchargé un peu comme marché. Il faut quand même que tu travailles fort pour avoir de la clientèle.
Pas si facile.
Okay. Non.
Puis, si jamais un médecin doit être au privé pour pouvoir en faire, hein, ça peut pas faire partie de la pratique publique.
Non, c'est ça, parce que c'est pas des soins esthétiques qui sont, en fait, qui sont remboursés par la RAMQ. Parce c'est comme quand, mettons, tu vas voir un dermatologue, si tu enlèves un grain de beauté qui est bénin, il va te charger.
Mm-hmm. Puis, être au privé, est-ce que ça signifie c'est désaffilier la RAMQ comme vous avez fait ou pas nécessairement?
Non, c'est ça. Fait que vu que c'est pas des soins qui sont assurés, tu peux faire ça puis en même temps avoir une pratique RAMQ.
Ah, OK.
Pour tu d'autres choses. Mais tu fais juste de l'esthétique, on the side, qui sont des soins non assurés, puis tu fais ta pratique médecin de famille ou whatever.
Mm-hmm. Et pour parler un peu de l'affiliation, désaffiliation de la RAMQ, je suis pas sûre, vous corrigez-moi si je dis n'importe quoi. Mais il me semble que j'avais appris qu'avant, une fois qu'on se désaffiliait, tu ne pouvais plus jamais revenir dans la RAMQ, alors que maintenant, ils ont enlevé cette loi-là. Est-ce que.
Écoute, j'avais jamais entendu. Non, je pense que. Écoute, à mon su, il n'y a pas eu de loi qui disait que tu ne peux plus jamais revenir. Là.
OK.
Sauf que des fois, ça peut être complexe parce que justement, il faut que tu trouves des AMP, il faut que tu retrouves une des place. Mais non, j'ai plein d'amis, par exemple. Je ne sais pas, tu sais, avant, il y a 10 ans, mais pas depuis.
OK, mais ça se fait quand même. Si quelqu'un décide d'aller 3-4 ans au privé, ils peuvent revenir dans la RAMQ après.
Exact.
Ça leur tente.
OK. Mais ça, c'est rare. Très rare.
Ouais, une fois que les gens quittent, ils veulent pas revenir.
C'est pas vrai, j'ai des amis qui l'ont fait. Mais c'est ça. Non, pas si quand même.
Est-ce que vous ressentez un petit jugement là, des gens par rapport à justement la pratique de l'esthétique ou des idées préconçues? Là,
juste l'esthétique ou pas nécessairement le privé?
On peut couvrir les deux.
Hein. Ben, en fait, non. Même si ça pourrait, là, tu sais, en fait, mais c'est sûr que moi, ça a toujours été comme partie de ma pratique. Fait que je sais pas. Non, ben, c'est comme vu que c'est moi, tu sais, on dirait que c'est comme un peu comme les gens qui disent, ah, tu sais, moi, je le dis pas que je fais du botox. Ben, moi, les gens, moi, je le dis que je pratique la médecine esthétique. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu vas dire, mais moi, j'aime pas ça, le botox, c'est pas naturel. Tu sais, c'est pas des gens qui vont venir me voir, là, tu sais, en voulant dire. Je suis pas entourée de ces personnes-là parce que c'est comme. C'est mon everyday. Là.
Mm-hmm.
Mais pour ce qui est du privé, j'ai pas eu. Non, au contraire, parce que justement, j'ai plus de temps à accorder. Là, mais je sais qu'il y a certains. Peut-être médecins, tu sais, que quand j'ai quitté, là, que tu le vois, que tu sais, tu comme fais partie d'une autre gang, peut-être.
Ouais.
Tu sais, comme moins médecin communautaire. J'ai quand même travaillé à la clinique actuelle, là, tu sais, genre avec. Je donnais de la méthadone, tu sais, à des patients. C'est quand même un autre vibe. Mais en même temps, je me sens encore comme ça dans la relation d'aide que j'ai avec les patients. Ouais. Mais c'est sûr que là, tu sais, je suis comme plus payée pour la valeur de mon expertise que j'ai développée, tu sais. Fait que. Mais ça se peut. J'ai peut-être déjà senti, là, par certains collègues qui étaient vraiment communautaires. Mais ça change pas grand-chose, pour être honnête. C'est comme,
Vous venez de le dire un peu, là, vous dites que vous êtes plus payé. Fait que est-ce que c'est quoi comme les avantages un peu que vous avez ressenti à aller au privé? Tu sais, vous avez parlé un peu de la pression du travail. Est-ce que vous êtes vraiment plus payé ou c'est vraiment plus cette pression-là qui a maintenant n'est plus là puis ça vous donne le temps de voir les patients?
Les deux. C'est sûr que ça dépend. T'sais, moi, j'ai des collègues qui ont travaillé au privé puis sont venus avec la RAMQ. Puis, c'est sûr que si t'es médecin général puis t'as pas nécessairement une expertise, moi, c'est un peu différent, je pense, que ce que j'ai développé parce que les gens venaient pour moi, tandis que des fois, c'est quand tu pars du public au privé puis t'es juste médecin de famille, médecin de famille, c'est un très beau travail, mais c'est sûr que les gens ne vont pas nécessairement venir pour te voir, ils vont juste appeler à une clinique. Puis fait que la clinique va un peu avoir le contrôle sur ces autres qui vont gérer tes horaires et tout. Fait que les frais de bureau, tout peut être négocié, mais je pense que c'est pas tout le monde qui vont faire vraiment plus d'argent là, au privé. Là. C'est sûr que moi, c'est différent parce que justement, quand tu développes une expertise dans quelque chose, bien sûr que les gens vont venir te voir, fait qu'ils vont payer un peu plus cher pour te voir. C'est sûr que c'est le. Mais il y a quand même des médecins qui m'ont dit que de manière générale, en médecine familiale, c'est assez similaire. Mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que pour que tu puisses avoir un salaire similaire, il y en a qui vont dire, au privé, tes patients vont être plus demandants. peut-être, mais tu vas faire plus de débit. Puis la qualité de la médecine, moi, je trouve que c'est mieux, dans le fond, quand tu as plus de temps à donner à tes patients. Mais en même temps, ça dépend tellement de ta personnalité aussi, là. Tu sais, je veux dire, puis tu sais, peut-être que si j'avais fait de la médecine familiale, qui n'est pas nécessairement comme mon dada, j'aurais pas nécessairement avoir aimé plus de temps avec les patients parce que, tu sais, comme, je serais comme, ah, OK, c'est, je sais pas, c'est redondant ou je sais pas, j'ai pas envie de faire ça nécessairement. Tandis que quand tu aimes vraiment ce que tu fais puis que, tu sais, tu veux prendre le temps avec tes patients, ben, je sais pas, ça vaut la peine que tu aies le temps.
Oui, j'ai l'impression que la pratique que vous avez dit aussi, c'est le genre de pratique qui est, c'est le fun d'avoir le temps. C'est de parler, puis de prendre le temps de connaître, puis de développer un lien avec la personne pour un lien de confiance, là, parce que vous avez suivi quand même sur long terme, j'ai l'impression.
Oui. Bien, théoriquement, les hormones, pour moi, à mon avis, en termes de prévention, c'est pour la vie, là. Fait que, on va se voir longtemps.
Puis est-ce que des fois, est-ce que vous ressentez, mettons, souvent que les patients, ils ont un peu de misère à payer ou qu'ils vont pas booker de follow-up à cause d'un stress financier, mettons?
Ben ça arrive. C'est sûr que les patients sont vraiment bien informés des coûts, là, puis que chacun des suivis sont payants. Fait que si on a besoin de les revoir. Par contre, moi, je donne tout le temps une marge de manœuvre. Je pense qu'il faut que tu sois comme raisonnable en voulant dire, quand je les rencontre, quand je leur prescris leurs hormones, souvent je vais leur donner comme un 6 mois, puis je vais leur dire, écoutez, c'est sûr qu'idéalement, j'aimerais savoir un bilan dans 2-3 mois, mais je te donne quand même 6 mois, puis... Ça arrive très souvent que je demande, j'ai reçu des nouvelles, des demandes de renouvellement, puis je vais dépanner, puis on va pas tout le temps charger, mais à un certain point, quand tu es responsable d'un résultat, il faut que le patient soit prêt, il faut qu'il paye pour te voir, il a accepté de te voir au privé, il est au courant des coûts. Mais je pense que tout doit être raisonnable aussi, là. Mais oui, c'est sûr que ça va limiter certaines personnes qui n'ont juste pas les moyens aussi, là. Fait que ça, c'est plate pour ceux qui ne peuvent pas avoir des bons soins non plus. Puis surtout qui n'ont pas accès aux hormones de manière générale parce que leur médecin, il a peur, ne connaît pas ça. Fait que ça devient plate.
Puis c'est comment avoir... Parce qu'il doit quand même avoir un peu d'administration. Tu sais, vous êtes votre propre clinique, votre propre brand. Genre, c'est comment avoir ce chapeau-là qu'on n'apprend pas vraiment en médecine?
Oui, en effet. J'ai quand même comme une genre directrice de clinique qui m'a aidée à fonder ce que j'ai fait. Fait que, tu sais, on a quand même buildé le brand ensemble. Après ça, j'ai engagé des infirmières qui travaillent avec moi, puis j'ai comme plus ou moins trois téléphonistes, là. Fait que, tu sais, mais on a fait ça un peu comme... On est toutes des gens qui se connaissent, là, en voulant dire... Eh bien, ma directrice, elle m'a aidée. On se connaissait déjà à la base. Elle s'est introduite un petit peu dans ma division esthétique. Après ça, l'hormono a pris de la place, puis elle m'a beaucoup aidée. Après ça, j'ai été chanceuse. J'ai des amis qui m'avaient... En fait, des gens que je connaissais qui travaillaient en médecine fonctionnelle, un peu plus comme... un peu proche de l'hormonothérapie, qui m'a dit qu'il y a une infirmière qui travaillait dans une autre clinique qui a cherché un nouveau médecin pour faire de l'hormono. Puis après ça, ben là, ça a été comme un peu du bouche à oreille. Puis, tu sais, mes téléphonistes, ben c'est comme 3 amis. C'est comment? Ben, j'en aime ça travailler là, c'est le fun. Puis, fait que, tu sais, c'est comme, c'est ça, une petite famille.
Puis, aimez-vous ça, le petit côté business, justement, d'avoir parti votre propre clinique?
Ben oui, ben c'est sûr que, ouais. C'est sûr que c'est comme, c'est plus, c'est pas que c'est plus lourd, c'est le fun, parce que justement, c'est moi qui décide un peu avec qui je travaille. Mais c'est sûr que c'est responsabilité, c'est comme un peu tes enfants des fois. T'as l'impression comme, tu sais, quand il y en a une qui va pas bien, mais il faut que tu sois là, puis même s'il faut annuler une journée, puis tu sais, c'est comme, il y a des impacts, tout.
Ouais.
C'est comme vraiment, tu sais, il faut que tu sois à l'écoute, là, tu sais, tu deviens comme un employeur, finalement. Je suis employeur, là, tu sais, j'ai des employés, fait que tu sais, c'est comme particulier, mais... Je pense qu'il faut juste que tu... Tu sais, quand tu as des bons emplois, il faut vraiment que tu prennes soin d'eux, là. Fait que c'est vraiment juste de faire attention avec des gens avec qui tu travailles. Puis en temps normal, ça se passe bien. Je pense que quand tu es bien intentionné, ben le reste unfold.
Mm-hmm. Ça doit quand même être fun de prendre des décisions, genre, sur tout un peu. Tu sais, savoir exactement comment vous allez arranger votre bureau. Juste, tu sais, des choses comme ça, là, d'avoir...
Oui, vraiment donné ce que vous voulez. Mais tu as quand même cette liberté-là, de manière générale, là, en médecine, justement, que tu peux décider, ben à quelques exceptions près, là, justement, quand tu as des pressions de voir tant de patients, c'est sûr que peut-être au privé, mais en même temps, je dis ça, puis c'est pas si vrai, parce que je sais qu'il y a certaines cliniques qui vont exiger que tu vois, tu sais, un patient dans tant de temps, là. Mais en temps normal, la plupart des cliniques privées, ils sont relativement ouvertes, mettons, à voir, si tu as des demandes particulières. Mais c'est sûr que moi, je suis décide à 100%, fait que oui, il y a clairement un avantage.
Qu'est-ce que vous aimez, mettons, le plus et le moins de votre pratique en ce moment?
Bonne question. Ben le plus, c'est clairement ce que je fais, de faire vraiment la différence chez des patients qui n'ont juste pas accès. Fait que c'est comme le moins. Le moins, c'est dur. Qu'est-ce que j'aime le moins? Ah, peut-être, ben Ça pourrait être... Bien, il y a quand même des stresseurs qui viennent au fait que, justement, tu sais, à un moment donné, j'ai une de mes infirmières, elle a une autre offre. Puis, tu sais, c'était juste comme money-wise, genre, un autre niveau, parce que, justement, on n'est pas beaucoup à faire ça. Fait qu'il y a pas tant de compétition. Je me sens pas en compétition, mais, tu sais, moi, je pense que si tu gardes un bon climat, workplace, puis, tu sais, tu donnes des bonnes, tu sais, je pense que tu mets les meilleurs tombants, mais ça, c'était comme... C'était une offre que je pouvais pas vraiment égaler dans okay. le contexte où c'était pas juste monétaire, là, il y avait d'autres choses. Puis c'est comme, OK, ben là, je m'en vais. Puis t'as beau avoir des contrats, je veux dire, si ça dit je m'en vais dans 2 semaines, même si ton contrat dit vous me donnez 4 semaines, ben c'est ça. Fait que des fois, ça fait quand même que, OK, ah, il y avait 3 mois de patients de bouquet à temps plein. Oh, ouais. Fait que c'est quand même, OK, fait que là, il faut expliquer aux patients que les suivis qu'ils ont eu depuis 3 fois, mais la personne est encore là. Et malheureusement, elle est encore avec nous, mais c'est vraiment moins fréquemment qu'avant. J'ai réussi à la retenir, mais tu sais, finalement, elle se rend compte, finalement, qu'en rétrospective, probablement que je pense qu'elle était heureuse avec nous, mais ça pour dire que, tu sais, c'est juste que c'est des revirements de situation que tu étais... que là, j'ai des patients à faire voir, j'ai tant de centaines de patients à faire voir, faut que je me change, tu sais, faut que je me change de cap, puis t'es responsable s'ils sont pas contents après ça, là. C'est une fois que... C'est sûr que moi, j'en ai des patients qui sont comme... Tu sais, comme je dis, j'ai 2500 patients sur ma liste d'attente, fait qu'il y a beaucoup de patients qui peuvent être comme... me rejoindre, c'est de me contacter, puis de me dire, tu sais, j'aimerais vraiment savoir rendez-vous, puis c'est difficile d'avoir accès. Mais quand tes patients sont déjà à toi, tu as vraiment une responsabilité, tu sais. Mm-hmm. Je peux bien dire, ben là, j'en ai 2500, puis mais je peux pas les voir, fait que même s'ils sont pas contents, je peux rien faire, là, parce que je vais pas diminuer la qualité de mes soins pour avoir plus de monde. Mais ceux qui sont déjà sous mes soins, si mes infirmières me lâchent, parce qu'ils m'aident beaucoup à faire mes suivis, là, d'hormones, soit j'étais vraiment formée pour ça, pour que je sois pas toute seule, ben c'est ça, tu sais, c'est que toujours au lendemain, t'as comme... C'est stressant.
Gérer la demande, puis la qualité de l'offre.
C'est ça. Puis, est-ce que vous avez un conseil pour les étudiants qui connaissent pas vraiment ces domaines-là, pour qui veulent peut-être se mouiller le pied, puis être comme, ah, j'aimerais ça essayer, voir de quoi ça en parle, vu qu'on n'est pas beaucoup exposé, comment ils pourraient s'exposer à tout ça?
Oui, c'est une bonne question. Parce que, tu sais, j'ai quand même beaucoup... Tu sais, c'est sûr que s'il y avait beaucoup de demandes... Tu sais, en fait, Dr. Sylvie Demers, par exemple, elle a fait des formations presque à chaque mois. C'est une journée complète de formation d'hormonothérapie, plus pour préménopause, ménopause, mais elle parle aussi de l'andropause, transgenre. Fait qu'elle, elle a quand même une formation qui est structurée. Fait que si ça vous intéresse, c'est sûr que ça, c'est quand même bien. C'est pour tous les médecins, pharmaciens, professionnels de la santé, même des fois à l'accepter des gens qui sont de sciences connexes, les prescripteurs, là, idéalement. Donc, ça serait quand même une bonne introduction. Je pense que c'est la meilleure chose. Moi, à chaque fois que j'ai une nouvelle infirmière ou un nouveau médecin qui est intéressé, je dis, tu fais la formation de docteur de Mers en premier, puis moi, je te forme sur le terrain après pour avoir comme la base, les études, voir un peu la sécurité des hormones. C'est sûr que à date, c'est pas mal la première chose que je dirais.
Oui, c'est bien se mouiller puis un peu dans le théorique, voir c'est quoi. Puis après ça, aller l'expérimenter en clinique.
Puis avez-vous un conseil pour les étudiants comme nous qui cherchent un peu leur... une carrière qui pourrait bien le fitter avec eux puis leur personnalité.
Ouais. c'est dur à dire, hein, parce que c'est sûr que mais la médecine familiale, ça permet quand même de dériver, parce que c'est sûr qu'en effet, tu rentres en chirurgie, là, tu vas faire des chirurgies, tu vas être de garde, puis c'est sûr que ça te dirige à une clinique qui, la plupart du temps, en même temps, c'est vrai puis c'est pas vrai, j'ai des collègues chirurgiennes qui maintenant font de l'esthétique, là, tu sais, on voulant dire, ils ont conservé quand même leur temps opératoire des fois, puis à un moment donné, ils vont... Puis surtout que la chirurgie, ben c'est un domaine où justement tu peux faire de l'esthétique sans faire de formation supplémentaire. Mais je te dirais, d'essayer de faire le plus de stages, surtout à l'externat, tu sais, comme dans plein de domaines particuliers. Moi, c'est là que j'ai comme quand même tombé en amour quand je suis partie justement faire un stage à l'extérieur à Paris en dermatologie vulvaire. Te trouver des mentors le plus possible. Tu sais, vraiment comme des gens que... Parce que c'est souvent ça, les gens qui me disent, là, même d'autres médecins ou même des patients que j'ai qui sont, en fait, étudiants en médecine aussi, là, qui me disent que c'est souvent ça qui va être déterminant, dans le fond, dans ton futur. Tu sais, des fois, c'est peut-être pas nécessairement la pratique de l'urologie qui te fascine le plus, mais si tu as eu un mentor qui est vraiment comme incroyable, ça va quand même te stimuler à... Je pense que c'est ça, de trouver des gens qui te correspondent peut-être, puis d'essayer de faire peut-être des stages. C'est pas que je veux pas en faire, là, mais c'est quand même un peu intense. Je me dis, peut-être que les gens vont demander. J'en ai déjà eu quand même des demandes, là. J'essaye, là, mais tu sais, j'ai des demandes de médecins, déjà, qui sont, que j'ai de la misère à booker, là. Ouais. Je suis comme, étudiant en médecine, c'est un autre niveau.
Mais reach out à d'autres gens, peut-être, qui font ça aussi, pas juste ça.
Mais tu sais, des médecins seraient motivés à venir travailler avec moi, je serais quand même game, tu sais, de former des gens, là, c'est sûr, parce que j'ai besoin d'aide. Fait que je lance quand même un appel à tous. C'est pas, je suis pas fermée à ça, là, dans le contexte où c'est quand même un domaine qui est en effervescence, puis il y a bien de la demande, fait que...
Good.
Ouais.
Merci beaucoup pour ces bons conseils. C'était vraiment fun de vous rencontrer et de discuter avec vous.
Merci.
Voilà. Merci. Bienvenue.